Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot, hot. This is why,
this is why, this is why I'm hot, hot. France Culture, bienvenue, bienvenue dans Soft Power 19, le magazine des industries culturelles et du numérique au temps du coronavirus, émission spéciale sur les conséquences économiques du fait de l'épidémie du Covid-19, notamment dans les milieux de la culture, des médias, du numérique jusqu'à la fin du mois de juin. Au sommaire de cette émission Soft Power ce soir, nous reviendrons sur l'actualité de la politique culturelle, la situation difficile, notamment des salles de cinéma, en particulier qui rouvriront le 22 juin et premier bilan également de l'action de Franck Riester, tout ça avec notre chroniqueuse Zoé Sfès de France Culture. On parlera ensuite industrie culturelle et numérique, notamment de la guerre qui est déclarée entre Twitter et Donald Trump avec Emmanuel Paquette dans un instant. Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express. L'actualité des médias, ce sera ce soir avec Franck Hannes, patron de So Press, qui lance ce jeudi un nouveau magazine, So Good. Et puis deux autres invités ce soir pour évoquer la situation politique de Hong Kong. D'une part, Hong Kong, hub financier de la Chine et capitale du soft power. En Asie, Chloé Froissart, sinologue, nous rejoindra. Et puis, j'ai proposé à Axel Daucher, ancien directeur général de Deezer et actuel président de Make.org, de venir nous livrer, en quelque sorte comme un grand témoin, sa vision du monde d'après, notamment dans le secteur numérique. Si on ajoute à cela la mobilisation des artistes contre le racisme aux États-Unis après la mort de George Flynn, les nouveaux albums de Drake et du français Woodkid, voilà pour le sommaire de ce magazine Soft Power 19 ce dimanche dans ce format spécial jusqu'à l'été. Émission réalisée ce soir par Perret Legras avec en régie Élise Le. Merci à tous les deux pour votre présence en studio à mes côtés. Cette émission a été préparée par Nathan Marcel Millet avec pour les réseaux sociaux David Pata. Vous pouvez la suivre sur Twitter au mot-clé Soft Power ainsi que sur Facebook, LinkedIn et bien sûr un podcast chaque semaine en vous abonnant gratuitement, podcast sur le site de France Culture, sur iTunes ou sur l'application podcast de votre smartphone. Soft Power spécial Covid-19 jusqu'à 19h30 sur France Culture en direct. Vous avez le programme, c'est parti.
The video of George Floyd comes out and I don't know what made that video more painful for people to watch. The fact that that man was having his life taken in front of our eyes, the fact that we're watching someone being murdered by someone whose job is to protect and serve, or the fact that he seemed so calm doing it, you know?
À l'instant, Trevor Noah, la star noire de la télévision américaine, l'anchorman du Daily Show, qui a consacré 18 minutes ce week-end à l'affaire qui ébranle l'Amérique. La mort, l'assassinat, on peut même dire, de George Floyd, 46 ans, à Minneapolis, littéralement étranglé par un policier blanc, Derek Chauvin, qui a maintenu son genou sur son cou. I cannot breathe, je ne peux plus respirer, suppliait George Floyd dans une vidéo dévastatrice qui a été vue des millions de fois. Il a succombé peu après. Quatre policiers ont été licenciés. Le principal agent présumé coupable, Derek Chauvin, a été arrêté. Il est déjà mis en examen pour homicide involontaire en attendant les résultats de l'enquête. Dans sa vidéo de 18 minutes, Trevor Noah, connu pour son humour et ses imitations, hilarantes de Donald Trump, est allongé, confiné sur son lit. Grave, il s'adresse aux Américains. Il est lui-même sud-africain dans un discours touchant. Jamais, sans doute, a-t-on vu un homme mourir pour de vrai, comme ça. Et même si l'enquête dira peut-être qu'il avait commis un délit juste avant son arrestation brutale, on sait aussi qu'il avait un casier judiciaire et qu'il avait fait de la prison pour vol à main armée, mais c'était il y a plus de 15 ans. Bref, la violence de cette vidéo a déclenché des émeutes partout en Amérique. Alors il faut ajouter que George Floyd était aussi un rappeur, on l'entend d'ailleurs là, sous le nom de Big Floyd. C'était pas une star certes, mais il avait quand même joué avec quelques grands noms du rap, notamment à Houston, dans le Texas d'où il venait. Il avait même contribué, nous apprend le Houston Chronicle, Michael à une sorte de nouveau mouvement de tendance du gangsta rap appelé Chopped and Screwed, en gros une technique pour hacher les sons en les ralentissant afin de permettre aux rappeurs de rimer dans des rythmes sur mesure, une technique utilisée notamment par le rappeur Drake par exemple. Big Floyd, c'était donc son nom, était également proche de DJ Screw, une véritable légende à Houston. Cela explique aussi du coup la mobilisation inédite des artistes dans cette affaire. Le message de Trevor Noah du Daily Show qu'on écoutait il y a un instant est simple, juste comme celui de Beyoncé hier soir. Nous sommes écœurés, a dit la chanteuse dans une vidéo magnifique postée sur son compte Instagram, suivie par 147 millions de personnes. Rihanna s'est également exprimée, tout comme d'innombrables rappeurs, l'attaquant français Kylian Mbappé, mais aussi des marques comme Nike, et bien sûr le vice-président Joe Biden, etc., etc., et qui tous réclament, et c'est un mouvement assez inédit, des stars du divertissement, du sport et de la politique mêlée pour être signalés ici, tous donc qui réclament justice for George. (Musique) 18h18 précisément, direct sur France Culture. Première séquence ce soir dans Soft Power avec vous, Emmanuel Paquette de L'Express. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Frédéric.
Trois sujets internationaux sur nos secteurs, hein, secteur habituel de cette émission, culture, industrie culturelle et numérique. Commençons par Donald Trump et Twitter. Emmanuel, on a vu le réseau social audacieusement signaler deux tweets du président américain parce qu'ils enfreignaient les règles de Twitter. L'un était supposé fake, l'autre pouvait inciter à la violence. Réaction immédiate du président américain, piqué au vif, hein, qu'on signale et labellise ses tweets, il a pris un décret présidentiel pour, et c'est un peu technique Emmanuel Paquette, annuler la protection dont bénéficient les sites internet et les réseaux sociaux. Explication.
Oui, effectivement, donc c'est la révocation de ce qu'on appelle la section 230 de la loi de 1996, donc c'est une loi qui a à peu près votre âge, Frédéric, 24 ans.
Absolument.
Et cette loi de la protection des communications a permis la liberté d'expression sur Internet en protégeant les sites Internet, puis plus récemment les réseaux sociaux, avec un statut qui n'est pas un statut d'éditeur, contrairement à la radio, la presse écrite ou la télévision. C'est-à-dire que les sites Internet ne sont pas responsables de ce qui est publié sur leur page. Alors, pas responsables a priori, encore une fois, contrairement aux journaux classiques, mais responsables tout de même un peu a posteriori, c'est-à-dire qu'ils doivent quand même modérer des propos qui peuvent être tenus sur ces sites ou sur ces réseaux sociaux. Donc, ce type de protection a permis le meilleur, c'est-à-dire l'éclosion de la parole et la liberté d'expression sur Internet, parfois le pire, c'est-à-dire on a pu voir aussi des vidéos de décapitation de terroristes circuler sur les réseaux sociaux, des images de suicides, des fake news, notamment en période électorale, et puis du harcèlement. Tout ça a pu se faire grâce ou à cause de cette loi. Et aujourd'hui, le président de la République y met fin. Alors, sachant que les plateformes avaient quand même entre-temps amender un peu cette disposition, cette loi, notamment avec leur CGU, ce qu'on appelle leur condition générale d'utilisation, notamment Donald Trump sur Twitter en a violé plusieurs, notamment en appelant à la violence, puisque dans un de ses derniers tweets, pour revenir à ce que vous disiez sur les incidents de Minneapolis, il disait que s'il y avait des pilleurs, et ben les forces de police avaient le droit de tirer sur les pilleurs. Twitter a estimé que cela appelait à la violence et l'a notifié directement sur son réseau. D'où la colère, effectivement, du président de la République.
Mais est-ce qu'on peut dire, Emmanuel, que c'est cette décision, qui est une décision administrative, ce qu'on appelle un executive order, c'est-à-dire au fond une sorte de décret, est-ce que ça peut avoir une vraie influence, sachant que le Congrès, d'autre part, le pouvoir législatif, va peut-être devoir intervenir et le cas échéant, la justice, voire même la Cour suprême?
Alors en fait, Donald Trump lui-même a estimé que son décret présidentiel était attaquable devant les tribunaux, parce qu'effectivement, un président ne peut pas défaire une loi qui a été votée par le Congrès. Normalement, cette loi devrait repasser par le Congrès, susciter un débat. En revanche, là où c'est plutôt bien joué de la part de Donald Trump, c'est que ça fait un petit moment déjà que le Congrès républicain, la partie républicaine du Congrès en tout cas, demandait une révision de ce statut en disant qu'il était beaucoup trop protecteur pour les plateformes. Donc, de fait, en actant la révocation de la section 230, Donald Trump va obliger le Congrès, à un moment ou à un autre, à se saisir à nouveau de ce débat et à faire un affrontement entre les républicains et les démocrates. Surtout qu'avant les présidentielles d'octobre, il y a de fortes chances que, à nouveau, les réseaux sociaux soient pointés du doigt par les républicains notamment, ou même par les démocrates. Et en revanche, donc effectivement, cette disposition peut être celle du président peut être considérée comme étant inconstitutionnelle et donc totalement attaquable devant les juges. Mais ça, il s'en fiche un peu là pour le coup, puisqu'il a déjà prévu. En revanche, là où ce qui peut être intéressant, c'est au niveau européen, puisque l'Europe aussi considère que le statut aujourd'hui des plateformes comme Facebook, Twitter, YouTube n'est pas satisfaisant, en estimant que ces plateformes n'ont quasi aucune responsabilité sur ce qui peut circuler sur leur service, mais ne veulent pas non plus leur mettre un statut d'éditeur comme des journaux, pour faire en sorte qu'il y ait une espèce de filtrage automatisé de ce qui peut être diffusé sur ces sites. Donc l'Europe est en train de réfléchir à une espèce de troisième voie entre le statut d'hébergeur d'un côté, le statut d'éditeur de l'autre. Et Facebook lui-même a dit que ça serait une bonne idée, parce qu'il se considère lui-même comme étant pas vraiment un hébergeur, pas vraiment un éditeur, mais quelque chose d'un peu hybride, un peu entre les deux. Et donc, d'une certaine façon, Donald Trump, en prenant cette décision, aide à faire avancer le débat en Europe. Donc si sur la forme, on peut critiquer le président des États-Unis, sur le fond, il est fort probable que cette décision fasse avancer le statut des plateformes numériques.
Comme quoi Donald Trump, même s'il agit un peu de manière impulsive et que tout le monde le critique, parfois en réalité c'est à peu près ce qu'il fait et ça arrange peut-être finalement un certain nombre d'acteurs et notamment l'Europe. Autre sujet, Emmanuel Paquette, vous êtes journaliste à l'Express, autre sujet international ce soir encore, le service de streaming de HBO, on en parlait régulièrement dans cette émission, HBO Max, a été lancé, ça y est, le 27 mai, pour contrecarrer bien sûr Netflix, Amazon Prime Video ou encore Disney+, avec des premiers retours qui sont cependant, Emmanuel, mitigés.
Mitigés, même dans la presse américaine, on peut lire des termes peu élogieux, hein, puisqu'on voit lancement désastreux, un gâchis même pour certains titres de presse américains. Alors pourquoi un gâchis? En fait, pour quatre raisons. La première, c'est le prix. Aujourd'hui, le service commercialisé aux États-Unis est commercialisé à 14,99 $ ou 11,99 $ si on s'abonne pour un an. À titre de comparaison, Disney+, c'est 6,99 $. Netflix, c'est entre 7,99 $ et 15,99 $. Et Amazon Prime Video, c'est 5,99 € par mois si on désire s'abonner mensuellement. Donc, on voit aujourd'hui que HBO se considère comme étant un service haut de gamme avec des séries de qualité comme Game of Thrones et estime que ces séries de qualité ont un prix, donc on se situe quand même sur une fourchette très haute, bien plus élevée que les autres, donc ça a été un peu la douche froide pour les consommateurs américains. Deuxième point qui pose un peu problème, c'est la confusion, parce que il se trouve que HBO a déjà deux autres services de streaming. Un premier service qui s'appelle HBO Go, qui est donné aux abonnés de la chaîne HBO, qui est déjà un service de streaming avec toutes les séries, et puis un deuxième service qui s'appelle HBO Now, qui est un pur service de streaming, mais sur lequel on ne trouve que les contenus HBO. Donc on voit aujourd'hui qu'entre HBO Go, HBO Now et HBO Max, le consommateur américain est un peu perdu. La différence, donc, c'est que HBO Max, si vous aviez bien compris, il y a les contenus HBO, il y a les contenus Warner, mais aussi des contenus d'autres studios. Donc on peut y trouver la série Friends, les séries South Park, ou encore tous les dessins animés des studios Ghibli. Donc ça, c'est le deuxième problème d'HBO. En fait, la confusion qu'il engendre avec la diversité de ses marques. Le troisième problème, c'est un problème de distribution. HBO Max, aujourd'hui, n'est pas distribué par Roku. Alors Roku, c'est un boîtier très apprécié aux États-Unis des consommateurs, grâce auquel on peut se connecter à Internet et regarder à peu près toutes les séries qu'on souhaite. Aujourd'hui, à peu près 39,8 millions de foyers américains sont équipés de Roku et ne peuvent pas accéder à HBO Max, alors qu'ils peuvent accéder à Disney+, à Netflix et à Amazon. Et autre gros écueil, Amazon Fire TV, qui là aussi est une clé qu'on branche sur son téléviseur pour accéder à Netflix, Disney, etc. Lui a été distribué à 40 millions d'exemplaires aux États-Unis et pareil, ne propose pas aujourd'hui HBO Max, faute d'accord avec Amazon. Donc ça, c'est le troisième problème qu'affronte HBO Max sur le marché américain. Puis le quatrième, pour terminer, c'est des trous assez béants dans le catalogue. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses qu'on ne retrouve pas. On ne retrouve pas, par exemple, le dernier film de Mad Max, qui est un film Warner, il n'est pas disponible chez HBO Max. On ne retrouve pas quasiment le premier Batman de Christopher Nolan. On retrouve pas non plus Man of Steel, le Superman, hein, qui fait partie pourcent de DC Comics et donc de la Galaxy Warner. On retrouve pas de vieux films comme Le Fugitif, ni Le Hobbit, un des grands succès de Warner au cinéma. Donc c'est assez incompréhensible, mais on paye cher pour un catalogue à trous et en plus qui n'est pas distribué partout. Donc pour l'instant, effectivement, le lancement est plutôt chaotique.
Un mot brièvement dans le même ordre d'idée sur le service français, un peu équivalent si on peut dire, enfin toute comparaison étant à faire avec prudence. Le service français Salto, qui est un service commun à France Télévisions, TF1 et M6, dont la date, le lancement cet automne, reste à préciser, Emmanuel ?
Oui, parce qu'en fait, le service devait se lancer maintenant, au mois de juin, donc pour, en tout cas en bêta test dans un premier temps, pour un lancement officiel au mois de septembre. La période de test qui devait s'ouvrir au mois de juin a été annulée. Et effectivement, maintenant, on parle d'un lancement au mois de septembre, octobre au plus tôt, pour des problèmes de mise en place avec le coronavirus, hein, puisque ça a complexifié un petit peu la mise en route du service. Donc pour l'instant, il y a un peu de retard à l'allumage pour Salto.
Alors, dernier sujet de Soft Power et sa dimension internationale, encore pour finir avec vous, Emmanuel Paquette. Deux grandes manœuvres financières sont en cours, hein, partant de coronavirus, notamment l'Arabie Saoudite, qui, ni vu ni connu, hein, partant de confinement, a essayé de pas trop le faire remarquer, est entrée au capital de grandes sociétés, de grosses sociétés américaines, où renforce sa participation dans une période, disons, de redistribution des capitaux.
Exactement. Alors il faut savoir que le fonds public d'investissement saoudien détient 325 milliards de dollars d'actifs. Donc c'est un fonds extrêmement puissant, avec beaucoup de ressources. Rien que sur le mois de mai, la banque fédérale, donc la banque de réserve, pardon, d'Arabie Saoudite a transféré 40 milliards de dollars de liquidités dans ce fonds. L'idée, c'est de diversifier toujours les activités de l'Arabie Saoudite pour un monde sans pétrole. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, elle prend des positions sur plusieurs domaines. Le premier domaine, c'est l'aviation, notamment en se renforçant fortement auprès de Boeing. Boeing qui va pas très bien en ce moment, hein, comme la plupart des constructeurs d'avions. Il se renforce aussi dans des domaines du pétrole et du gaz, ce qui est plus naturel quand on est une entreprise, un fonds d'investissement lié à l'Arabie Saoudite. Plus étrangement, la société fait son entrée dans des grands domaines de divertissement. 523 millions de dollars ont été investis en actions Facebook, par exemple. 496 millions de dollars investis dans des actions Disney. Il y a eu des rumeurs aussi sur une prise de contrôle de Warner Music, donc qui est en train de préparer son introduction en bourse dans les semaines ou mois qui viennent. Et puis, une prise de participation de 416 millions de dollars chez Live Nation, donc le plus grand tourneur qui
de concerts et de comédies musicales.
Possède des grands artistes américains. Exactement, qui aujourd'hui est en difficulté, hein, puisque effectivement il n'y a plus de concerts, de grandes scènes de concerts, tout ont été quasiment annulés pour l'année 2020. Donc on voit aujourd'hui que ce fonds-là, qui est entre les mains du prince Mohammed Ben Salman, donc MBS, est un peu investi un peu tous azimuts et prend des positions à bas coût, puisque aujourd'hui la plupart de ces sociétés ont vu leur cours de bourse s'effondrer, peut-être à l'exception de Facebook, hein, qui se tient toujours bien en bourse. Donc ça permet au Royaume de rentrer au capital de grandes entreprises mondiales, de se diversifier, et tout ça avec un prix relativement intéressant.
Tout ce qui pose d'ailleurs aux États-Unis comme ailleurs, y compris en France, la question de la protection, hein, face à ces investissements étrangers qui se multiplient, avec bien sûr au-delà d'Arabie Saoudite, la Chine qui est dans le viseur.
Exactement, puisque avec tous ces mouvements financiers, on voit de grands pays qui ont des gros moyens, des grosses ressources, faire un peu leurs emplettes un peu partout sur la planète. Et pour empêcher que des pans entiers ou des entreprises sensibles dans différents domaines d'activité, que ce soit dans l'énergie, dans les biotechnologies, les télécommunications, il y a des prises, en fait, il y a des changements de loi dans plusieurs pays pour tenter de protéger les fleurons industriels de certains grands pays. Donc en France, jusqu'à maintenant, le contrôle des investissements étrangers porté sur des entreprises dont une partie du capital passait sous contrôle étranger, donc c'était de l'ordre de 25% du capital. Ce chiffre a été ramené à 10% pour pouvoir limiter donc des prises de participation étrangères. Et surtout, même au Japon, le Japon, lui, a été beaucoup plus loin que la France. Il a abaissé ce seuil de 10% à 1% pour à peu près 500 entreprises japonaises, parmi lesquelles Toyota, Mitsubishi, donc des sociétés qui aujourd'hui ont quelques difficultés. Et puis on retrouve plus largement et de manière, disons, avec des conditions un peu moins drastiques, 1500 autres sociétés, parmi lesquelles notamment Nintendo, qui sont protégées par donc le gouvernement japonais. Alors, le Japon ne pointe pas du doigt la Chine, mais on comprend bien aujourd'hui qu'il y a une vraie crainte de basculement de certains grands fleurons industriels japonais entre les mains des Chinois.
Merci Emmanuel Paquette, on vous retrouvera dimanche prochain. Je rappelle que vous êtes journaliste à l'Express et on reste dans le soft power et l'influence internationale maintenant et précisément avec la Chine. La Chine pour évoquer la crise à Hong Kong avec vous Chloé Froissart. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct. Vous êtes maître de conférence à l'Université Rennes 2, sinologue, politologue et membre du Centre d'études français sur la Chine contemporaine qui est basé à Hong Kong. Alors Hong Kong revient, si on peut dire, dans l'actualité cette semaine. Nouvelle manifestation, interdite d'ailleurs sous prétexte de coronavirus et plusieurs centaines d'arrestations, personnes arrêtées cette semaine également. En cause, une nouvelle loi de sécurité nationale imposée par Pékin qui de fait met fin au statut particulier de Hong Kong. Statut particulier dit un pays, deux systèmes. Chloé Froissart, vous êtes donc avec nous. Pourquoi une telle accélération du côté chinois et un retour aussi subi des tensions?
Alors, c'est pas véritablement une accélération. Hein. Cette loi sur la sécurité nationale est en débat à Hong Kong depuis 2003. Elle avait fait l'objet de manifestations de plus d'un demi-million de personnes le 1er juillet 2003. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Basic Law, c'est-à-dire la loi fondamentale de Hong Kong, prévoit dans son article 23 que Hong Kong devra à terme promulguer sa propre loi sur la sécurité nationale pour prévenir le séparatisme, la subversion, etc., pour empêcher, si vous voulez, qu'il y ait des mouvements politiques à Hong Kong qui demandent une forme d'indépendance de Hong Kong vis-à-vis de la Chine. Mais c'était, si vous voulez, enfin c'est une loi sur la sécurité nationale qui est quand même plus large et qui devait absolument être passée à Hong Kong. Or là, si vous voulez, cette semaine, l'Assemblée nationale populaire donc chinoise, qui a tenu sa session plénière, a voté jeudi une disposition donnant mandat au comité permanent de l'Assemblée nationale populaire pour voter un projet de loi sur la sécurité nationale à Hong Kong, et qui vise donc à interdire le séparatisme, la subversion, le terrorisme, la conspiration avec les forces étrangères. Et cette loi, si vous voulez, remet en cause le principe un pays, deux systèmes, qui était la condition à laquelle Hong Kong est revenu à la Chine en 1997, à la fois dans la portée, dans sa portée, dans la portée de cette loi, et dans son mode d'adoption. Dans la portée de la loi, pourquoi ? Bah, pas tout simplement, ça ouvre la voie à des poursuites politiques, c'est-à-dire que tout le camp pro-démocratique sera très certainement soumis à des poursuites politiques. La subversion est un, si vous voulez, un chef d'accusation extrêmement large qui est utilisé très fréquemment pour la Chine pour bâillonner absolument toute forme de critique. Par exemple, c'est le chef d'accusation qui a été lequel a été condamné le prix Nobel de la paix Liu Xiaobo en 2010. Prix Nobel de la paix 2010, donc c'est extrêmement large. Le terrorisme aussi, ça ne figure pas dans la loi fondamentale de Hong Kong. Or, ce terme est aussi utilisé à tout va par la Chine sur le Xinjiang. On se rappelle aussi que lors des manifestations de l'année dernière contre la loi d'extradition, il avait été utilisé par la Chine pour condamner ces manifestations. Bref. Y compris ce projet de loi vise non seulement à condamner des actes, mais aussi des activités en lien avec des forces étrangères. Donc potentiellement toutes les ONG basées à Hong Kong, il faut savoir que Hong Kong c'est le lieu de China Watching, c'est-à-dire que toutes les grandes ONG du style Amnesty International, China... Human Rights in China, Human Rights Watch, China Labor Bulletin, toutes ces grandes ONG ont leur siège à Hong Kong. Donc potentiellement, elles pourront plus lever de fonds à l'international et elles vont être très directement visées.
Alors pourquoi la Chine, Chloé Froissart, pourquoi la Chine agit de la sorte et avec un tel timing aussi en ce moment? Quelle est selon vous la stratégie chinoise?
Alors, Il y a plusieurs choses qui peuvent entrer en ligne de compte. On a beaucoup parlé de la guerre froide avec les États-Unis. Moi, je suis plus nuancée. La question, comme je viens de le rappeler, de Hong Kong est indépendante au départ de la guerre sino-américaine, la guerre commerciale sino-américaine. Si vous voulez, pour rappeler, on ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui sans faire quelques rappels historiques, mais si vous voulez, la déclaration conjointe sino-britannique de 1984, qui fixait le cadre de la rétrocession de Hong Kong, est un traité au statut très ambigu. C'est donc un traité bilatéral entre la Chine et la Grande-Bretagne qui est déposé à l'ONU, mais qui n'a pas le statut de traité international à l'ONU. Et donc, si vous voulez, l'année dernière, au moment où le gouvernement hongkongais a essayé de faire passer la loi d'extradition en force, hein, qui permettait donc d'extrader toute forme d'opposant à Hong Kong vers la Chine, le camp pro-démocratique a demandé aux États-Unis d'agir un peu comme garant de cette déclaration sino-britannique. Ce qui a conduit, si vous voulez, les États-Unis à adopter une loi pour la démocratie et les droits de l'homme à Hong Kong en novembre 2019, en vertu de laquelle le secrétaire d'État américain doit se prononcer sur le statut annuellement sur le statut d'autonomie de Hong Kong. Or Mark Pompeo a dit il y a quelques jours que avec cette loi sur la sécurité nationale, il n'était plus possible d'attester d'une forme d'autonomie de Hong Kong vis-à-vis de la Chine et que donc allait s'en suivre des sanctions, en particulier la fin du statut commercial préférentiel de Hong Kong. Donc, si vous voulez, c'était un mécanisme qui était engrangé bien avant. Hein. Si vous voulez, on est dans une logique au long cours historiquement.
Alors, les réactions internationales ont été immédiates. Vous venez de le dire pour Donald Trump et son administration, très enflammée, hein, un peu. On commence à s'y habituer. Plus mesurée, mais non moins déterminante, non moins ferme du côté du Royaume-Uni qui, jusqu'à la rétrocession de 1997, avait la gestion de Hong Kong, qui était une colonie britannique depuis 1842, je crois.
Oui, tout à fait. Alors, le Royaume-Uni, d'une manière générale, est resté relativement tempéré depuis la rétrocession. Hein. Le Royaume-Uni ne souhaite pas, si vous voulez, avoir une position forte vis-à-vis de Hong Kong et préfère ménager ses intérêts économiques avec la Chine. Mais là, de fait, il y a eu une déclaration conjointe entre les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie, disant que ces pays étaient extrêmement préoccupés de la situation à Hong Kong et du fait que cette loi remettait en cause le principe d'un pays de système. Le premier pas qui a été fait par le Royaume-Uni a été de dire qu'il allait assouplir les conditions du passeport britannique d'outre-mer, qui est un passeport qui a été donné aux anciens sujets de l'Empire britannique qui en faisait la demande et qui donne des conditions préférentielles pour résider, travailler, étudier aux États-Unis. Donc ça, c'est la moindre des choses. Taïwan a fait un peu la même chose, a annoncé des mesures similaires également pour aider les personnes qui souhaiteraient quitter Hong Kong. Mais clairement, c'est pas ça qui va freiner la Chine dans son avancée. Donc on pourrait espérer par exemple une forme une loi comparable au Magnitsky Act qui a été voté par les États-Unis il y a quelques années à l'encontre des Russes et qui viserait par exemple à punir les responsables politiques à Hong Kong et en Chine qui violent les droits de l'homme et la démocratie. Le problème, si vous voulez, juste un dernier mot, mais les sanctions qui vont être mises en place à l'égard de Hong Kong en vertu de la loi sur la démocratie et les droits de l'homme à Hong Kong par les États-Unis, malheureusement, va autant punir les Hongkongais que la Chine. Et la Chine si vous voulez, fait clairement savoir, là, à travers ce projet de loi, qu'elle est prête à sacrifier Hong Kong comme porte d'entrée économique et comme place financière de tout premier rang derrière Londres et New York.
Mais vous le disiez à l'instant, Hong Kong, c'est une capitale bancaire, une place financière majeure pour la Chine et pour le dialogue avec le reste du monde. C'est même le passage obligé, au fond, des flux financiers vers et depuis la Chine dans un certain nombre de domaines. Aussi, le cadre protecteur des accords de commerce internationaux, il y a du copyright qui est protégé. C'est un état de droit, une économie de marché. Il y a une justice aussi plutôt autonome, une presse encore indépendante, contrairement à la Chine. On peut y accéder à Facebook, à Google, à Twitter, à Instagram, tout ce qui est interdit en Chine où des copies ont été faites de ces sites. Hein, c'est Rindrin pour Facebook, Weibo pour Twitter, Baidu pour Google. Bref, est-ce que vous pensez, vous le disiez à l'instant, que la Chine serait prête à faire son deuil de toutes ces singularités de Hong Kong pour réintégrer pleinement à la chinoise, j'oserais dire, le territoire et d'une certaine manière le diluer?
Je pense très sincèrement qu'elle est prête à sacrifier Hong Kong. Elle a mis en œuvre depuis 2007 ce qu'elle appelle Greater Bay Area Project. C'est un projet économique qui vise à englober la province du sud du Guangdong avec la région administrative spéciale de Hong Kong et l'autre région administrative spéciale de Macao pour faire un grand hub économique, si vous voulez. Et le discours de la Chine, ça a toujours été de dire vous manquez d'emplois à Hong Kong, on va vous en donner, vous avez des problèmes au niveau économique, la Chine va venir subvenir à vos besoins, etc. Vous manquez d'espace, on va vous en donner dans le Guangdong, etc. Et c'est une manière que la Chine, si vous voulez, l'idée, c'est un peu la même qui a été mise en place avec Taïwan, c'est-à-dire essayer de créer une forme de dépendance économique qui fait que Hong Kong serait de toute façon dépendante de la Chine sur le plan économique, absorbée dans la Chine sur le plan économique, et avec toutes les questions de frontières aussi qui vont avec, parce qu'il y a des trains qui lient la province du Guangdong et Hong Kong qui ont été mis en place, tout un réseau d'infrastructures. Alors évidemment, à chaque fois, les questions de frontières, de visas se posent. La Chine, à chaque fois, a essayé de faire sauter ces questions d'autorisation, de franchissement des frontières, etc., soi-disant pour favoriser les échanges économiques, mais en réalité pour abolir toute forme de limite politique et de souveraineté de Hong Kong. Donc, après, la question, c'est est-ce que la Chine a les moyens de ses ambitions? À l'heure actuelle, elle va très mal économiquement. Donc, est-ce qu'elle pourrait être à même de mener à bien ce projet, d'être attractive? Mais de toute façon, je pense que la question n'est pas là. La question n'est pas là. Je pense qu'elle, de toute façon, elle a décidé de diluer Hong Kong dans ce projet de Greater Bay Area.
Chloé Froissart, merci infiniment. Je rappelle, et vous étiez en direct par téléphone avec nous, je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université Rennes 2, sinologue et politologue, membre du Centre d'études français sur la Chine contemporaine basée à Hong Kong. Et de ce point de vue, vous reveniez donc sur cette évolution qui n'est pas exactement une accélération, mais quand même une dramatisation, on peut dire, de ce qui se passe à Hong Kong depuis cette semaine.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Deuxième séquence après l'international. Ce soir, venons-en à la France maintenant et à sa politique culturelle avec vous, Zoé Sfès de France Culture, qui nous rejoignez maintenant. Bonsoir Zoé.
Bonsoir Frédéric, bonsoir.
Alors deux sujets ce soir en politique culturelle, cinéma d'abord avec l'annonce de la réouverture le 22 juin prochain, une annonce qui a surpris tout le monde, les exploitants comme les distributeurs Zoé.
Effectivement, alors le cinéma se déconfine et en salle et sur les plateaux de tournage, mais alors vous venez de le dire, c'est vrai, pour les salles c'était une vraie surprise, que je vous rappelle que jusqu'au 11 mai à peu près, on évoquait une reprise des salles carrément en septembre. Le 26 mai, c'est-à-dire mardi dernier sur France Info, le ministre de la Culture Franck Riester évoquait encore une éventuelle réouverture début juillet, et puis on l'a entendu tous, hein, le Premier ministre Édouard Philippe l'a annoncé il y a à peine deux jours, toutes les salles de France rouvrent le 22 juin. Alors, qu'en pensent les exploitants? Les exploitants, eh bien, ils ont pas mal parlé depuis ces deux jours. En premier lieu, Arnaud Vial, qui préside la Fédération des exploitants de cinéma, qui explique dans une interview au Point, eh bien, qu'il se réjouit, évidemment, lui, qui est exploitant et qui a perdu 350 000 euros de chiffre d'affaires pendant ce confinement, mais que quand même, il s'explique mal ce revirement de dernière minute. Je ne suis pas dans le secret des grands politiques, mais cette décision a visiblement été prise à huis clos, sans nous concerter. Je pense que c'est dans la perspective des élections du 28 juin, nous dit-il dans cette interview. Exploitants qui, comme un peu tous les distributeurs et les exploitants, sont à la fois partagée entre la joie de retrouver un public cinéphile qui attend ça visiblement avec impatience et tout de même une forme d'agacement, puisqu'on l'a entendu, les professionnels ont été peu consultés et que surtout, il n'y a pas eu véritablement de directives quant aux conditions d'hygiène. Arnaud Vial encore disait hier, on ne sait pas si on doit ouvrir à 50% de capacité les salles, 60, 70%, et quid de l'équipement en gel, en masque, parce qu'en fait, c'est ça la vraie question, il y en a deux. Déjà, comment on va voir les films le 22 juin, quand bien on aurait très envie de les voir, mais surtout, quel film verra-t-on? Et c'est un peu la question qui se pose cette fois-ci du côté des distributeurs, puisqu'il y a donc en 16 semaines 120 films qui en France ne sont pas sortis, avec pour leur grande majorité des films qui sont reportés. C'est le cas notamment de tous les blockbusters, il y en a uniquement deux pour le moment qui continuent de se profiler dans les prochaines semaines. Il y a Mulan qui sortira le 22 juillet et qui n'est pas décalé, et puis Tenet, le nouveau film de Christopher Nolan. Alors il y a aussi tous les films dont la sortie en salle a été amputée, ils sont sortis une semaine, 10 jours avant le confinement, qui vont ressortir. C'est le cas de La Bonne Épouse par exemple, porté par Juliette Binoche, ou encore de De Gaulle, le grand biopic avec Lambert Wilson. Alors si le pari que les cinéphiles reviennent dans les salles fonctionne, ce sera une bonne nouvelle. Et pourquoi? Parce que cette espèce de vide créé par les blockbusters peut représenter une vraie opportunité pour les films français, les films européens, les films d'auteurs, tous ces fameux films moyens qui ont du mal parfois à trouver leur public en salle. On va en retrouver le 22 juin. Il y a par exemple Les Filles de Joie, porté par Sarah Forestier, un film de James Norton, L'ombre de Staline, ou encore un documentaire binatural de Alice Guy. Alors, pour tout le monde, on l'aura compris, c'est un vrai pari. Et dans la profession, j'ai parlé avec pas mal de professionnels, on salue le courage des distributeurs qui vont un petit peu au choc. On attend avec impatience de voir si ces films vont, entre guillemets, essuyer les plâtres. Mais il y a quand même certains films fragiles qui vont pas pouvoir se permettre ce genre de pari. C'est le cas, et vraiment, on peut le regretter, par exemple, de Nuestras Madres, qui a été caméra d'or au dernier festival de Cannes, Grand Prix de la SACD. Nous en étions partenaires avec France Culture, et on a appris que son distributeur ne peut pas se permettre de nouveaux frais de sortie en salle, et que donc le film sortira directement en VOD.
On comprend qu'il y a une surprise pour les salles. Là, on a, Zoé, une situation, par rapport à ses sorties de salle, à sa réouverture de salle, au moment même d'ailleurs où le gouvernement vient d'annoncer ce matin que dans les trains, sans doute, on allait supprimer le fameuse distanciation, puisque les trains, ce sera un fauteuil sur deux sera supprimé. Qu'en sera-t-il dans les salles de cinéma? Est-ce que on verra ça? Mais ce que vous venez de dire, c'est français, mais c'est aussi international avec la reprise des tournages et notamment la situation d'Hollywood, où là-bas le bilan est également compliqué, sinon désastreux.
C'est très intéressant parce qu'il y a une situation presque inverse aux États-Unis, puisque en France, on l'a entendu pour les salles, c'est la surprise, c'est un peu l'impréparation. Côté tournage en France, les choses ont été bien préparées. Pour le coup, les tournages ont repris avec des chartes qui ont été mises en place entre le CNC, les producteurs, une charte très amusante qu'on vous a relayée sur Twitter, avec notamment les conditions dans lesquelles on va réécrire les scènes avec de l'intimité physique, celles où on pourra imposer des masques. Tout repose sur le volontariat des acteurs. À Hollywood, c'est l'inverse. On sait qu'a priori, toutes les salles vont rouvrir le 1er juillet. Là aussi, la question de savoir avec quel film, parce que beaucoup de studios se sont désengagés, ça a été vraiment l'hécatombe ces dernières semaines. Personne ne voulait sortir jusqu'à, et c'est très intéressant, l'annonce du studio Solstice qui a décidé d'avancer la sortie d'un film très attendu, In Hinger, qui repose sur Russell Crowe, qui devait sortir à l'automne et qui sortira finalement le 1er juillet. Le patron du studio a dit, on a besoin de trésorerie, on parie sur le fait que ça marche et il faut qu'on envoie un signal fort. En revanche, c'est les tournages qui pourront difficilement reprendre. Alors, dans le pays, ça a commencé cette semaine, mais ça ne reprend pas à Hollywood. Pourquoi? Parce que Los Angeles, c'est le principal foyer de Covid de Californie. On en est à près de 90 000 cas pour le moment. Toujours pas de tournage, et on a quelques chiffres qui sont sortis dans un article de Sky qui nous dit qu'il y a à peu près 3000 personnes à minima qui ont déjà perdu leur emploi à Hollywood. On pourrait s'approcher des 10 ou des 15 000.
Alors, dernier, troisième ou deuxième, selon comment on compte, sujet de politique culturelle ce soir avec vous, Zoé Svez. On a lu un certain nombre de papiers, déjà de bilan au fond, de pré-bilan de l'action de Franck Riester, ministre de la Culture. Que peut-on en dire au moment où, évidemment, on parle ici ou là de remaniement possible ou en tout cas potentiel?
Bah effectivement, c'est une séquence très compliquée, c'est les termes qu'on utilise. Un papier du Monde a beaucoup retenu notre attention à tous cette semaine. C'est un papier intitulé « Les rêves sacrifiés » de Franck Riester. Ce papier est intéressant parce qu'il donne la voix à ce ministre qui a vécu une crise un peu sans précédent dans l'histoire de son propre secteur, qui s'ajoute à une crise peut-être politique sur la vision de la culture. Franck Riester qui, et là c'est intéressant de l'entendre, il faut le rappeler, est quand même l'un des premiers dirigeants à être tombé malade de cette crise du Covid et qui a contaminé la moitié de son cabinet. Il a cumulé les mots, les siens, celui de son secteur, celui de son ministère, note l'un de ses collaborateurs dans ce papier, avec ce ministre donc de 46 ans qu'on accuse et qu'on a régulièrement accusé de manquer de charisme, qui avait déjà plusieurs griefs de la procession, notamment par au fait qu'il avait peu réagi pendant les longues grèves de l'audiovisuel public. Et là, il essuie cette crise. Ce papier est intéressant parce qu'on lui entend un homme qui est assez éprouvé par la maladie, par effectivement les contaminations de son cabinet, et qui dit avoir très mal pris cette tribune parue dans Le Monde le 30 avril, qui appelait à un New Deal de la culture, à la prolongation des droits des intermittents, et qui était signée par des artistes avec Franck Riester, avec qui Franck Riester disait être en lien au moment même où cette tribune a été publiée. On sent qu'il l'a vécu comme une espèce de couteau dans le dos. C'était dur d'entendre que le ministère était absent alors qu'il a travaillé jour et nuit, se défend Franck Riester dans cette interview. On découvre, en tout cas on confirme l'idée que lui aussi a découvert en même temps que la France entière, eh bien, les annonces faites par Emmanuel Macron lors de ce fameux visio avec les artistes, et notamment l'annonce d'une année blanche, qui peut imaginer qu'un ministre apprenne des mesures en écoutant le président. Alors pour sa défense, on peut quand même se dire qu'il a été l'invité, Franck Riester, d'Emmanuel Laurentin et de Chloé Cambrelin dans le temps du débat. Il y a à peine 10 jours, on entendait quand même un homme actif qui maîtrisait plutôt bien ses dossiers techniques. La vraie question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas vu? Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas senti qu'il travaillait tant? Pour les professionnels et au sein même de son cabinet, on se dit que si jamais il devait y avoir un remaniement et s'il devait y perdre sa place, ce serait sans doute plutôt injuste parce qu'on pratique au cabinet et on le revendique une politique des petits pas et que somme toute, et j'ai pu en parler avec les professionnels du cinéma, notamment liés à toutes les questions de reprise des tournages, ces mesures d'urgence, pour le moment, dans certaines mesures, elles satisfont. Il y a un fonds de soutien qui a été mis à la disposition des producteurs de 50 millions d'euros qui leur permet de reprendre les tournages, par exemple, et d'être indemnisés en échange d'une franchise. Il est plutôt satisfait. Et en réalité, la question, le cas Riester, et ça, tout le monde semble plus ou moins s'y conforter, comme le cas Françoise Nyssen avant lui, eh bien, il a dit sans doute plus de choses de la place de la culture dans la Ve République que des ministres eux-mêmes. Dans le papier du Monde, il y a une erreur notable. Le papier du Monde évoque cette fameuse tribune signée par une centaine d'auteurs qui, dit Le Monde, prenait à partie le ministre. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette tribune ne prenait pas à partie le ministre. Elle s'adressait directement au président de la République. Il faut aussi le redire, on l'a entendu, les annonces sur la culture, c'est Emmanuel Macron qui les a fait. Les annonces sur la réouverture du cinéma, c'est Édouard Philippe qui les a fait. En fait, cette crise, elle met le doigt sans doute sur un problème qui est bien plus large. C'est le problème de la culture en temps de Ve République. Un exploitant du cinéma me disait tout à l'heure, Malraux et Jack Lang sont peut-être les arbres qui ont caché la forêt. En temps de paix, la culture reste plus que jamais accessoire. Et si à l'aune d'une crise comme celle-ci, elle devient enfin un vrai sujet, eh bien, elle devient une prérogative régalienne du président. Et c'est sans doute peut-être ce qu'il faudra interroger, la place de la culture dans nos institutions, qu'il faut mettre en cause peut-être plus qu'un Franck Riester, même si certains l'accusent toujours de manquer de charisme.
Un arbre qui cache la forêt pour André Malraux qui a écrit ses chaînes qu'on abat. C'était une belle formule. Merci Zoé. Lorsqu'il y a remaniement, on peut aussi évoquer le fait que c'est parfois des considérations politiques qui l'emportent. Franck Riester étant responsable de Agir, qui est une des composantes de la majorité avec La République En Marche, on peut aussi penser qu'il y aura ces considérations-là, pas simplement culturelles, qui joueront dans le débat si remaniement il devait y avoir. Un mot maintenant sur deux séries télévisées, rapidement, véritables phénomènes d'audience qui ont eu lieu, qui se sont passés ces dernières semaines, mais aussi phénomènes de voyeurisme sur Netflix. D'abord, Tiger King, c'est une série de 7 épisodes sur la passion de l'élevage d'animaux sauvages aux États-Unis, ce qu'on appelle les Big Cats, hein, quand on les appelle comme ça, les lions, les tigres et autres léopards. C'est une des séries les plus vues aux États-Unis à travers le monde durant le confinement. Il faut dire qu'elle a été lancée le 20 mars, donc à la bonne date. Étrange série au demeurant que Tiger King, délirante même, dans laquelle on apprend par exemple qu'il y aurait plus de tigres en captivité aux États-Unis que dans l'ensemble du reste du monde à l'état sauvage. Voilà, c'est une habitude, on prend un tigre chez soi, pourquoi pas. Pour ceux qui aiment les séries, ils peuvent passer leur chemin. Régression intellectuelle, commentée par exemple le journal Le Point. En revanche, pour ceux qui aiment analyser les séries, les phénomènes populaires, Tiger King, qui se rapproche de la télé-réalité, mêle d'une certaine manière et d'une manière inédite les genres. La grande distinction en général à la télévision se fait aujourd'hui entre ce qu'on appelle le scripted et le unscripted. Autrement dit, la télévision qui est écrite, les séries préparées où les dialogues sont écrits, et tout ce qui n'est pas écrit, improvisé. Tiger King, lui, brouille d'une certaine manière cette distinction puisque c'est une série écrite, mais en même temps très proche de la télé-réalité et tout en étant un documentaire. Tournée pendant 5 années, elle met en lumière Joe Exotic, déjà le nom est hallucinant, un redneck moustachu et peroxydé, amoureux des tigres, mais armé jusqu'aux dents. Aujourd'hui en prison pour des assassinats de félins et des tentatives d'assassinat d'êtres humains, la série est un vulgaire mélange des genres, détestable, déprimante par certains aspects, mais elle raconte une Amérique, celle des armes à feu, celle de l'argent roi, et celle aussi des super prédateurs dont on n'aura pas l'outrecuidance de mettre parmi eux le nom de Donald Trump. Autre série, Procès médiatique, après Tiger King, Procès médiatique. Son titre anglais original est Trial by Media. Elle vient d'être lancée depuis la mi-mai sur Netflix. Alors là, c'est une mini-série documentaire, on parle dans le jargon de docuserie, documentaire et série, qui raconte, à partir de faits réels, comment des individus médiatisés sont arrivés à commettre des délits ou des crimes. Une sexualité révélée en public, une maîtresse secrète, un procès pour viol minutieusement décrit, et de retour chez eux, les témoins surmédiatisés et peu habitués, livrés comme ça en pâture à l'opinion publique, craquent. Ils sont coupables, bien sûr, de leurs actes, mais les 6 épisodes de procès médiatique cherchent à savoir si les médias eux-mêmes n'ont pas une part de responsabilité également dans ces crimes. Le voyeurisme, ici encore, est frappant. La docu-série est coproduite par Georges Clooney et le résultat est assez déstabilisant. Dans les deux cas, ces deux séries dénoncent l'entertainment, mais en faisant du divertissement eux-mêmes. Elles se moquent des médias tout en étant des médias. Est-ce un épiphénomène ou une nouvelle tendance du docu-fiction ? Nous le verrons. Tiger King, série originale en 7 épisodes. Procès médiatique, nouvelle série en 6 épisodes. Les deux sont sur Netflix.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Troisième séquence ce soir, après l'international, après la politique culturelle, maintenant les médias. Nous sommes en direct par liaison numérique avec Franck Hannes, le PDG de Sopresse. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Alors Franck Hannes,
bien, monsieur.
Bonsoir Franck, comment tu vas? Le trimestriel de 116 pages, vous allez le mettre en vente ce jeudi, ça s'appelle So Good. So Good, c'est édité par Sopresse, que vous dirigez, groupe média qui édite Society, également SoFoot ou SoFilm. Et donc désormais, ce nouveau magazine intitulé So Good, ça parlera de quoi?
Alors So Good, en fait, c'est une coédition d'ailleurs. C'est édité par Sopresse, mais c'est coédité avec Ulule, qui est une plateforme de financement participatif. Et ça, je le précise parce que ça a son petit intérêt et
historique.
Et sa justification. Ouais, historique. Déjà, je vous expliquais ça, mais c'est un magazine qui va mettre en avant, qui dresse le portrait de personnes ou groupements de personnes. Ça peut être des associations, ça peut être des collectifs qui se battent pour un monde meilleur. Donc en fait, l'idée, c'est de prendre des anonymes, plus ou moins anonymes, parfois ça peut être des personnalités un peu plus connues, mais qui vont essayer d'œuvrer pour que le monde de demain soit plus juste, plus équitable, plus équilibré, plus responsable.
Des initiatives citoyennes, ouais. En quelque sorte, des initiatives citoyennes, mais dans un format trimestriel.
Exactement. Et le trimestriel est le support d'un mouvement plus large, puisqu'on va décliner également tout ça sous forme de conférences qui vont se passer partout en France régulièrement. On va en faire 7 la première année, et puis de manière plus assidue ensuite. Et puis après, des médias digitaux vont naître peu à peu autour de tout ça.
Quels sont les sujets, par exemple, et les contributeurs que vous allez mobiliser pour So Good ?
Alors, les contributeurs, c'est la rédaction de Sopress, qui est une rédaction unique qui fait à la fois, comme vous l'avez rappelé, Society, mais aussi Doolittle, Tsugi.
SoFoot, SoFilm, on vous a perdu, je crois. C'est un magazine qui va donc sortir un trimestriel de 116 pages qui sera mis en vente ce jeudi. Racontez le monde tel que on voudrait qu'il soit pour qu'il aille dans le bon sens, résumé Franck Hannes dans ces derniers temps. Vous êtes revenu, je crois.
Je suis revenu. Et ça a dû couper, je suis désolé. Oui, donc il y a la rédaction de Sopress et 80 activistes qui nous aident à identifier, à dénicher des sujets et des porteurs de projets qu'on va mettre en avant dans le magazine. Donc là, dans le premier numéro, ça va de Xiu Martinez, qui est un ado amérindien, qui a attaqué le gouvernement américain pour son inaction dans la politique climatique. Il y a un jeune, il est pas très jeune d'ailleurs, un réfugié qui a monté un bar pour lanceurs d'alerte à Paris. Il y a tout un sujet évidemment sur le coronavirus.
Donc, des initiatives citoyennes avec, je le disais, raconter le monde tel que l'on voudrait qu'il soit et tel qu'il il existe de manière un peu optimiste avec de nouvelles idées. Mais il y a un côté un peu kamikaze, Franck Hannes. C'est un peu comme partir avec SpaceX dans la capsule Crew Dragon vers la Station Spatiale Internationale. Choisir un format papier alors que la presse écrite papier est très affaiblie et qu'il y a de moins en moins de kiosques à journaux, est-ce que c'est pas un peu fou ?
Non, je crois pas que ça soit fou, déjà parce que c'est un média que moi je maîtrise très bien et dont on a prouvé la rentabilité et l'efficacité aussi. Donc c'est un média sur lequel je compte toujours m'appuyer. Après, on conçoit les médias maintenant de manière plus globale, c'est-à-dire que le papier, ce qui est bien, c'est que ça permet d'être rentable assez vite et d'exister assez vite et d'avoir un pouvoir d'influence assez rapide. Là où des médias digitaux demandent souvent beaucoup plus d'argent, ne serait-ce que pour exister, c'est-à-dire pour le référencement. Là où nous, l'avantage qu'on a avec Sopress et puis avec le format papier, c'est que quand on lance un titre, on a une fanbase qui fait qu'il s'impose comme un titre qui existe dans le paysage médiatique. Et là, la preuve en est, c'est que ce magazine n'est pas encore lancé. Il sort le 4 juin et on a déjà plus de 15 000 abonnés.
Donc, alors vous avez évoqué le fait d'avoir des conférences qui seront sans doute dans le modèle économique. Ça sera sans publicité. Vous êtes une entreprise à impact. Vous aurez des abonnements. Une grosse campagne est réalisée. Mais vous voulez aussi que ce soit non seulement un magazine, mais aussi un mouvement. C'est-à-dire, au fond, de faire participer, évoluer cette communauté en même temps que le magazine.
Ouais, l'idée.
Deuxième départ, So Good donc, qui ne serait pas non seulement un magazine, mais un mouvement. Vous êtes revenu ? Non. France Culture, il est 19h03, c'était donc Franck Hannes, PDG de Sopress, pour la sortie du magazine So Good. À 19h03, Goliath par Woodkid. Et juste après, ce sera la dernière séquence de Soft Power. On parlera numérique. Just underhead, divided by white laser. A pattern of mad strobes are going haywire. In your eyes, night cold, I see the end of us. Playing your best role, but the mask shatters. Where are you going, boy? Where did you get so lost? How could you be so blind? How could you be so blind? À l'instant, un extrait du nouveau single de Woodkid, dont le nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est un tort, car c'est à la fois un artiste désormais mainstream international au succès considérable. Et surtout, c'est un Français. De son vrai nom, Johan Lemoine, il vient de la région de Lyon et son parcours mérite attention. Woodkid est d'abord un illustrateur, un artiste plastique spécialisé dans la sérigraphie, l'image, qui très vite innove. Dans la vidéo, on le connaît comme réalisateur de clips pour des marques et bientôt pour des artistes, dont Lana Del Rey, John Legend et surtout les superstars Drake et Rihanna. Multigenre, multicasquette, multistyle, Woodkid innove constamment, expérimente et il passe aussi de l'autre côté des platines en devenant musicien. On lui doit un album remarqué en 2013, The Golden Age, puis un long silence au point où on pensait sa carrière musicale terminée. Le revoici avec Goliath, dont le clip remarquable a déjà dépassé plusieurs millions de vues sur YouTube. Je vous le recommande d'ailleurs tant il est original et superbe malgré l'ambiance un peu anxiogène de la crise sanitaire actuelle à laquelle il renvoie à son corps défendant car il a été tourné dans une mine de la République tchèque bien avant le confinement. Bref, Woodkid, vous l'aurez compris, incarne un espoir français avec son succès global. Il chante certes en anglais, mais n'est-ce pas ainsi que l'on peut influencer le monde parfois? En tout cas, gageons que Woodkid ne soit juste qu'au début de sa carrière. Dernière séquence de Soft Power ce soir avec, après les médias, la politique culturelle et les industries créatives, maintenant le numérique. Bonsoir Axel Daucher.
Bonsoir.
Alors je vous ai proposé d'être ce soir une sorte de grand témoin de cette émission. Vous avez dirigé Deezer. Deezer, c'est le site français de streaming musical, un peu comme Spotify ou plus récemment Apple Music. Et aujourd'hui vous avez fondé et vous présidez Make.org. Et c'est précisément un site, une sorte de d'agence de consultation avec laquelle vous avez lancé une grande consultation. Précisément sur le monde d'après. Ça a été fait sur make.org. Est-ce que on peut peut-être commencer par recueillir les principaux enseignements entre ce que les Français, en tout cas les personnes que vous avez consultées, veulent ou souhaitent, entre, je dirais, un monde probable et un monde souhaitable?
Alors, effectivement, c'est vraiment la question. Ça me fait penser exactement à ce que Franck a dit à propos de So Good il y a quelques minutes, hein, sur le fait qu'aujourd'hui tout le monde est concentré sur le monde probable, et si on d'abord de nous mettre d'accord sur le monde souhaitable, ça nous permettra d'avancer plus vite. D'ailleurs, So Good est un des partenaires médias de l'opération Le Monde d'après, qui est une opération un peu particulière qu'on a montée avec WWF, la Croix-Rouge et le groupe SOS et puis Unicité et le mouvement UP. Et en fait, l'idée, ça a été de se dire, pour construire le monde souhaitable, on va essayer de juste poser une seule question ouverte très simple à des millions de Français, et puis d'identifier non pas une mesure, mais quels sont les consensus sur lesquels tout le monde se retrouve. Et on a eu comme ça 1,7 million de votes, on a eu 20 000 propositions. Enfin bref, il y a eu un résultat qui était absolument énorme en termes de volume.
Alors, quels sont les consensus, par exemple, qui apparaissent, sur lesquels tout le monde est à peu près d'accord, et après on parlera des controverses?
Alors, les consensus, ils se regroupent autour de 6 thèmes. Il y a 3 gros thèmes, à peu près équivalents d'ailleurs, qui sont autour de consommation, alimentation, environnement et politique économique. Et puis 3 thèmes plus petits, démocratie, éducation et santé. Et si je regarde les gros consensus, il y en a 2 énormes dans consommation, alimentation. C'est tout ce qui concerne les circuits courts et tout ce qui concerne la transition agroécologique. Donc les circuits courts, c'est les circuits de proximité, c'est des solutions comme le vrac, comme la consigne, comme toutes les solutions qui permettent de refaire une économie à l'échelle des gens. Là où la transition agroécologique, on va aller chercher évidemment le bio, mais pas que le bio, la permaculture, tout ce qui est la limite de la pêche et l'élevage intensif, un élément qui existait avant, mais qui a repris énormément de poids avec la crise du Covid.
Alors sur les controverses, là pour le coup les sujets qui continuent à diviser les Français, et peut-être en se résumant à ceux qui ont un lien avec les sujets de cette émission, qu'est-ce que vous avez observé?
Alors les controverses, c'est très intéressant, ça ne nous permet pas d'avancer parce que justement on n'est pas d'accord, mais un des sujets qui a été très discuté mais sur lequel les gens sont très clivés, c'est le revenu universel. Énormément de discussions qui étaient plus surprenantes d'ailleurs autour du déploiement de la 5G, où les gens sont aussi mobilisés mais assez peu d'accord. Tout ce qui est les modifications des règles d'impôt et du patrimoine vers notamment la notion d'ISF sur lequel contrairement à ce qu'on croit, il y a beaucoup de clivages. Il n'y a pas de consensus là-dessus. Et puis des solutions auxquelles on s'y attendait, parce qu'on les voit habituellement, qui sont les nationalisations, une grosse controverse. Deuxième controverse, la réduction du temps de travail. Et enfin, la sortie du nucléaire. Donc, alors, là, on retrouve vraiment dans les clivages habituels dans les trois derniers.
Alors, Axel Zoucher, je rappelle que vous êtes président et fondateur de Make.org. C'est sur Make.org que vous avez fait cette consultation sur le monde d'après. Je m'adresse au fondateur de Make.org, mais aussi plus largement à Axel Zoucher, figure du numérique qu'on a bien connu, qu'on avait reçu d'ailleurs dans cette émission. À l'époque, vous étiez directeur général de Deezer. Pour traiter avec vous ce soir, un peu comme un grand témoin, trois questions. On va parler des civic tech, c'est-à-dire de la démocratie et du numérique. On va parler de la souveraineté numérique. Mais j'aimerais commencer par le rapport au travail, tout ce qui est en train de prendre naissance sur le télétravail, les nouveaux outils, les technologies au cœur de la réinvention du travail. Comment vous voyez les choses? Comment vous voyez ce qui est en train de se passer?
Je pense qu'on est en face de la rupture la plus évidente et la plus certaine qui est liée au confinement et à la crise du Covid. C'est la remise en cause du travail présentiel et l'explosion du télétravail. Et pour moi, on est vraiment dans un point de non-retour sur ce sujet-là. On pourrait même regarder un peu plus loin et se dire que ça fait longtemps qu'on cherchait d'où venait la productivité numérique. Productivité numérique, elle est venue de pas mal d'outils depuis très longtemps qui ont permis d'optimiser professionnellement ou personnellement la vie, pour le bien ou pour le mal, à vous de voir. Néanmoins, elle se faisait à géographie constante. Et ce qui est en train de se passer, c'est la remise en compte de la géographie même de nos échanges et de notre vie. Donc je pense que ce point-là, le basculement des entreprises en télétravail, la récupération de 2 heures de transport par jour, du stress en faveur de la vie personnelle et de la vie professionnelle, je pense que c'est, on ne reviendra plus en arrière.
On reviendra plus en arrière, mais il y a aussi de nouvelles articulations à trouver, puisque ce qu'on appelle le remote, c'est-à-dire le télétravail à distance, nécessite quand même aussi des formes de présentiel. Comment vous voyez cette articulation et qu'est-ce qui manque finalement dans le télétravail qui n'est pas parfait pour certaines de ces dimensions?
Alors, là, on est dans un champ vierge, parce que tout le monde a été inventé. Les équipes technologiques sont les plus en avance dans le sujet parce qu'elles ont l'habitude dans leur rituel de mode agile de fonctionner vraiment à distance. Donc pour elles, c'est quasiment transparent. Mais pour ce qu'est une entreprise dans sa globalité, le présentiel est nécessaire aussi. En revanche, il faut redéfinir son rôle. Nous, on bosse beaucoup dessus parce qu'on est une petite boîte, on est 50 personnes, mais comment on réinvente un équilibre présentiel et digital. Alors nous, ce qu'on a trouvé, je ne sais pas si c'est les bonnes solutions, mais en tout cas, c'est là où on travaille. On a déjà acté la division par 3 des locaux dans lesquels on allait habiter. Et puis, on a 3 cycles différents, des logiques de rencontres quotidiennes par équipe, et ça, c'est en digital. Des logiques de rencontres hebdomadaires, et là, c'est toute l'entreprise et c'est digital. Et puis, on envisage d'orchestrer l'entreprise autour d'une semaine présentielle par mois, par équipe. C'est-à-dire, c'est la semaine où tout le monde vient au bureau, enfin, par équipe, parce qu'on ne sera pas toute la boîte en même temps. Et là, à la limite, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'ordinateur. On ne fait que la collaboration qu'on ne peut pas faire ailleurs. Et c'est là où on crée de l'interstitiel, on crée du lien et on réétablit, je dirais, le projet commun de l'entreprise. Je sais pas si c'est ça ou d'autres, mais il faut restructurer la semaine, le mois, la géographie, là où habitent les gens. Tout ça est vraiment un nouveau chantier qui s'ouvre.
Alors, second sujet qui revient souvent, d'ailleurs, dans les questions dans les consultations, mais aussi dans les débats publics, celui de la souveraineté numérique, qui est beaucoup évoqué par un certain nombre de personnes. On a tendance à avoir nos difficultés quand précisément Deezer, par exemple, ou Dailymotion ont du mal à survivre dans un écosystème économique mondial dans le numérique. On a vu dans les technologies de l'éducation qu'on n'était pas prêt et que les outils qu'on nous proposait ne fonctionnaient pas forcément lorsqu'ils étaient français et qu'il fallait finalement quand même utiliser Skype ou Microsoft Teams ou bien sûr Zoom qui a multiplié par plusieurs centaines de fois son nombre d'abonnés et d'activités de personnes qui l'utilisaient depuis le confinement. La souveraineté numérique, pour vous qui avez dirigé Deezer, c'est une priorité, mais comment on fait?
C'est un marronnier parce que ça fait 15 ans qu'on en parle de, de le retard qu'on a et de l'impatience.
Mais c'était très théorique. Là, d'une certaine manière, maintenant, c'est une réalité.
Exactement. Mais alors, moi, je trouve qu'il y a quand même un truc très intéressant dans ce qui se passe là, c'est que on s'aperçoit que les GAFA ont tiré leur partie de tout ce qui s'est passé dans le confinement, mais également des boîtes qui n'étaient pas les GAFA. On a parlé de Zoom, d'House Party,
Netflix,
ou de plateformes vidéo qui n'étaient même pas Netflix, c'est des plateformes vidéo locales. Bref, il y a eu une évolution aussi d'acteurs, de nouveaux acteurs qui peut-être ne sont pas français comme Zoom ou Sparty, mais auraient pu l'être. Ce n'est plus on vit dans un paradigme où on se dit le problème c'est qu'on n'a plus la data, on n'a pas l'intelligence artificielle, donc on n'est plus capable de combattre les GAFA. Mais la réalité c'est que la valeur elle se crée plus nécessairement au sein des GAFA. On a des GAFA qui sont bloqués par leur taille, hein, qui devient énorme, les problèmes antitrust, même les règles, l'histoire de Twitter avec Trump en ce moment. On sent bien qu'elles sont au cœur de quelque chose et il est possible que la vraie création de valeur, elle vienne à côté. Et ça serait assez rigolo parce que ça mettrait les GAFA dans la situation dont étaient les telcos à l'époque, hein, c'est de se faire désintermédier. En tout cas, si c'est le cas, on n'en est pas sûr, mais je pense que c'est la première fois où on sent que ça vient. Cette commoditisation des plateformes GAFA, la souveraineté redevient un enjeu accessible du coup pour des pays comme la France ou pour l'Europe, avec beaucoup d'investissements, un vrai changement. D'ailleurs, France Digital a sorti un plan de réarmement qui est assez large sur le sujet, hein, qu'on peut aller regarder. Mais avant cette histoire de sauvegarder la tech française avait un petit air de cause perdue, je pense que c'est en train de changer, et en tout cas je l'espère. Et que c'est plus seulement une question de data et d'IA, mais c'est de valeurs d'usage sur lesquelles on peut reprendre de l'avance.
Sans parler qu'à travers la souveraineté numérique, il y a plusieurs choses. Il y a des notions de souveraineté, qui sont parfois d'ailleurs des critiques tout simplement vis-à-vis des échanges internationaux. Il y a des questions de refus de l'économie de marché. Mais si on défend l'économie de marché, on peut quand même lutter contre les abus de position dominante, parce que c'est ça le débat sur les GAFA. Ce n'est pas simplement d'être contre les États-Unis ou d'être contre l'économie de marché, mais c'est d'abord et avant tout une régulation pour permettre à ce que les abus de position dominante n'existent pas. Vous avez fondé Deezer. Quand on constate que Apple Music est lancé grâce à la puissance de feu d'Apple, on se dit il y a bien une abus de position dominante en l'occurrence, par exemple.
Quand j'étais chez Deezer, j'ai eu deux procès, un contre les majors pour abus de position dominante des majors, qu'on a gagné, et puis un début de requête à l'autorité de la concurrence contre Apple pour la même chose. Et donc oui, vous avez hyper raison, c'est un problème d'abus de position dominante et d'autorité de la concurrence dans un monde où les règles de concurrence ne sont pas adaptées, ne vont pas assez vite par rapport aux GAFA. Donc les effets de ces politiques anti-concurrentielles, c'est des effets qui sont trop longs par rapport au cycle. Et là, on est sauvé par les usages. C'est ça qui est nouveau, et c'est peut-être là où on va peut-être laisser le temps à l'autorité de la concurrence de faire son travail et de remonter à bord.
Troisième sujet, dernier sujet ce soir avec vous, Axel Daucher. Je rappelle que vous avez été le directeur général de Deezer, aujourd'hui fondateur et président de Make.org. Les civic tech, c'est-à-dire toutes ces technologies de l'information, ce numérique lié à la démocratie, qu'est-ce que vous voyez, disons, tout simplement pour réinventer une intelligence collective?
Moi, je trouve ça. Enfin, vous allez dire que je suis hyper optimiste sur tous les points, mais je vais quand même y aller. Moi, j'ai monté Make.org, qui est vraiment un des acteurs importants de la civic tech, parce que je considérais que la démocratie avait deux défaillances. Elle était plus capable d'agir sur le réel des gens, et elle était plus capable de réconcilier les gens. Et donc, je suis très inquiet globalement sur ce sujet. On est une société qui est fragmentée, désengagée, et puis on a une part commune qui diminue. Il s'est passé quelque chose dans les 4 derniers mois qui est assez intéressant, parce que d'une part, on a tous vécu une communauté d'épreuves homogène pour tout le monde. Certains l'ont bien ou mal vécu, mais comme on n'avait pas connu depuis la guerre, donc le socle commun implicite, il est né. Les gens se sont engagés plus que jamais. Et puis pour la première fois, on s'est dit, tiens, l'État, il peut servir à quelque chose. On est d'accord ou pas avec ce qu'il a fait, mais en tout cas, on a senti l'État pratiquement agir. Donc je me demande si on n'a pas des nouveaux fondements sur lesquels la démocratie peut renouveau avoir un sens qu'elle a perdu quand même depuis les 20 dernières années. Et c'est là où le rôle des civic tech est clé. parce que si la démocratie veut prendre ce tournant, elle doit vraiment basculer vers une participation des citoyens à tous les échelles du phénomène. Ce qui ne marche plus dans la démocratie, c'est cette histoire de voter une fois tous les 5 ans et il y a un pacte suffisant pour pouvoir travailler pendant 5 ans.
Cette histoire, c'est quand même l'histoire de la démocratie, donc il faut pas non plus jeter l'eau, etc. Mais comment est-ce qu'une plus grande conduite participative des politiques publiques, par exemple, est possible grâce au numérique, c'est-à-dire au civic tech?
Eh ben, il faut respecter la décision à travers un processus électoral traditionnel de démocratie participative. Ça, on va pas le changer. C'est là où vraiment le citoyen décide dans des règles qu'il est difficile de changer pour retrouver un accord. Alors que là, on en a un sur la démocratie majoritaire qu'on connaît. Mais en revanche, en plus de ça, il faut faire participer massivement les citoyens à toutes les étapes de la politique publique. La conception, l'élaboration, la mise en œuvre, l'évaluation. Dans une municipalité comme Lyon, la politique des transports, elle devrait être faite, mise en œuvre et évaluée avec 10 à 20% des Lyonnais. Et c'est pas simplement une sorte de truc, tiens, c'est rigolo, ça serait sympa. C'est ce qui la rend opérante. C'est-à-dire que si vous ne faites pas ça, vous n'arrivez pas à mettre en place votre politique des transports. Et ça, c'est vrai au niveau de l'Europe, au niveau du pays. Donc la conduite participative, c'est vraiment là où vont les civic tech. Au-delà, avant, les civic tech, c'était un budget participatif, une concertation, c'était des choses comme ça. Peu à peu, on évolue vers permettre à des pouvoirs locaux, nationaux, ou alors à des mouvements citoyens, de réellement créer une collaboration dans la durée avec 10 à 20 et à 20% d'une population.
Mais je ne veux pas être avocat du diable, Axel Dauphier, pour terminer. Mais au fond, la démocratie, c'est souvent arbitré entre des intérêts divergents. C'est ce que font d'ailleurs les confédérations syndicales. Elles ont des branches et elles essayent de trouver un plus petit commun dénominateur entre ces intérêts divergents. C'est aussi tout le débat des effets pervers, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une position, mais après on s'aperçoit que ça a des conséquences. C'est aussi arriver à mettre autour d'une table des acteurs qui se parlent pas ou qui ont, comme je le dis, des intérêts qui ne sont pas les mêmes. En quoi les civic tech, elles changent ce problème? Et est-ce que juste demander à des gens de participer et d'agir, ce n'est pas contradictoire avec cette nécessité de trouver du consensus?
Mais c'est consubstantiel. En fait, quand on parle de participation, on parle d'utiliser effectivement une vraie participation citoyenne, c'est-à-dire vraiment l'aval, le peuple, mais d'utiliser cette participation citoyenne pour faire collaborer les parties prenantes. Aujourd'hui, une autre manière de raconter le rôle des civic tech, c'est ce qu'on appelle la réintermédiation démocratique, c'est-à-dire remettre en cohérence le travail des corps intermédiaires qui n'ont plus leur espace, le travail des corps constitués, donc exécutifs et législatifs, et des citoyens. L'écosystème dans lequel tous ces gens peuvent travailler ensemble, il est sur le digital maintenant possible de les faire collaborer durablement tout au long d'un mandat. Et c'est ça le métier des civic tech, c'est réintermédier la démocratie.
Mais est-ce que c'est pas, encore une fois, c'est toujours, je suis l'avocat du diable, mais est-ce que c'est pas des solutions trop faciles pour des sociétés qui sont devenues trop complexes? Et hélas, il y a énormément de régulations, de droits, de juridiques, d'européens, qui fait que beaucoup d'acteurs qui sans doute s'expriment avec des arguments sensés ou de cœur ne peuvent pas comprendre la complexité de ces questions et du coup permettre au dossier d'avancer.
Mais non, mais alors je reprends mon point. Là, il s'agit pas de mettre le citoyen au décisionnaire avisé pour mettre en place des politiques publiques. Il s'agit de l'impliquer pour identifier dans quel domaine il y a une cohérence avec le corps social. Il s'agit de le faire collaborer avec les corps intermédiaires et les experts de façon à aboutir à des politiques qui soient réalistes, faisables, finançables et cohérentes avec le mandat de l'élu. Et il s'agit d'impliquer enfin le citoyen dans l'évaluation de ce qui s'est passé. Et si on ne crée pas ça, la politique ne fonctionne plus. Mais l'intelligence, elle n'est pas uniquement du côté du citoyen. Le citoyen n'est que le catalyseur de tous ceux qui doivent travailler pour que la politique soit pertinente. Mais si on le fait pas, il va y avoir une séparation entre des corps intermédiaires qui disparaissent au milieu, un pouvoir institutionnel désincarné, désengagé, sans pouvoir de l'autre côté, et à l'autre bout, une démocratie de réseau social qui n'est qu'une sorte de canal d'expression, mais qui n'est absolument pas constructif, qu'on trouve aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc le métier des civic tech, c'est de réconcilier ces trois mondes pour créer un espace, un operating system démocratique dans lequel les citoyens participent, les corps intermédiaires travaillent et les politiques décident.
À l'instant, Axel Daucher, ancien directeur général de Deezer, fondateur et président de Make.org. Make.org, c'est une civic tech, justement, c'est-à-dire un outil, une application, une consultation, un site qui va permettre de mettre en relation et, au fond, de créer des engagements et une intelligence collective. Ça vous plaît comme définition?
Ah, c'est parfait. Je suis très content.
Merci Axel Daucher, d'avoir été en direct avec nous ce soir sur France Culture.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
18h25, cette émission touche à sa fin, mais je ne saurais la conclure sans un mot pour finir sur notre belle langue française qui s'enrichit chaque année de nombreux mots, mais aussi d'anglicismes. C'est une langue vivante, quoi qu'en pense parfois l'Académie française, qui a tendance à la figer un petit peu ou à refuser de la féminiser sous la pression de ses dirigeants qui parfois ont 90 ans et durant le confinement prennent des décisions parfois un peu autoritaires ou idéologiques sans consulter même la plupart des académiciens, comme nous vous l'avions révélé il y a quelques semaines dans cette émission, en prenant des décisions, comment dire, abracadabrantesques. En tout cas, le petit Larousse et le petit Robert, eux, n'ont pas ces obsessions. Ils s'attachent à lire et à écouter la langue telle qu'on la parle ou telle qu'on l'écrit. Ainsi, dans les nouvelles éditions 2021 de ces dictionnaires qui sortent ces jours-ci, on va trouver des mots trop nouveaux qui montrent justement le dynamisme de notre langue. Alors bien sûr, on va y trouver télétravail, comorbidité, mais ni le Covid, ni la Covid, parce que là, c'est trop récent. Et même si le coronavirus lui-même existait déjà dans certains dictionnaires, notamment le Larousse, c'était à partir de ses sens précédents, puisqu'il y avait déjà eu des coronavirus. Pour distanciation, le choix est laissé entre distanciation sociale ou physique. Donc comme ça, chacun choisira ce qu'il préfère. D'ailleurs, on peut dire tout simplement distanciation, c'est plus simple, dans le Robert qui lui aura une version en ligne mise à jour tout prochainement. Les nouvelles technologies constituent quelques-uns des ajouts les plus remarquables de ces dictionnaires, comme par exemple le mot licorne, slasher, ubérisé, ubérisation, hackathon, traceur, darknet, fachosphère, incubé hein, sur le modèle d'incubateur, influenceur, tout ça ce sera dans le nouveau petit Larousse, mais aussi brainstormer, technophobe, blacklisté, spammé, story, curateur ou encore Detox, cloud et bot désormais validés par le Robert. Je signale aussi électronisme, qui est un des rares mots qui semble s'imposer dans la pratique plutôt qu'illiteracy. L'écologie aussi voit les mots bioplastique, locavorisme et antispécisme validés dans le Larousse, ou collapsologie et végie, pour végétarien dans le Robert. À signaler hypercentre, là c'est pour le centre du centre-ville, remontada, un terme sportif qui s'élargit au grand public et nous met de bonne humeur. Le tataki pour la gastronomie, le mocktail, c'est des cocktails sans alcool. Dans le registre amoureux ou des genres, signalons pansexuel ou encore transitionné pour ceux qui engagent une démarche visant, je cite le dictionnaire, à paraître, à faire correspondre son expression de genre à son identité de genre. Sans oublier, lorsque ça tourne mal, sexto et même féminicide qui entre dans le Larousse. Le petit Larousse, justement, qui ajoute quelques mots des régions ou de Belgique ou du Québec, par exemple sorteur, un peu comme fêtard, un sorteur, ou divulgacher, c'est spoiler en fait, mais ces mots risquent, s'ils sont inusités en France, de ne pas s'imposer et malheureusement de disparaître peut-être par la suite des dictionnaires. Comme souvent, les mots valorisés pour des raisons idéologiques et francophones ont tendance à ne pas être repris par l'usage, eh bien disparaissent. En ce qui concerne la langue, c'est la pratique qui fait loi et qui toujours s'impose sur les dictats, les croque-mitaines, les peignes zizi et autres pisses vinaigres. On en reste là pour ce soir. Merci d'avoir suivi notre émission Soft Power ce soir. Merci à nos invités, nos chroniqueurs, Emmanuel Paquet de L'Express, Chloé Froissart, Zoé Sfez, Franck Hannes et Axel Daucher. Dans un instant, vous retrouvez Carbone 14, magazine L'Archéologie de Vincent Charpentier. En attendant, bonne soirée à l'écoute de notre chaîne. Bonne fin de week-end. Prenez soin de vous.